Alors ce matin, j'aimerais prendre avec vous le psaume 2. Psaume 2. On va lire ensemble ce psaume. Il est dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle, dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. » C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie. Car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. On va s'incliner encore dans la prière. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est la vérité. Et nous te remercions, Seigneur, parce que par elle, nous te connaissons. Par elle, tu te révèles à nous, Seigneur, tu nous parles de toi, Seigneur, et tu nous parles aussi de nous, Seigneur, et tu nous montres ce qui est en nous. Et Seigneur, nous te remercions. Par la parole de Dieu, tu nous délivres, tu nous affranchis. Seigneur, tu es notre Dieu, nous t'aimons. Seigneur, combien nous sommes heureux d'être à toi. Et nous te demandons grâce. Nous avons besoin de toi tous les jours, et nous avons besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi. Seigneur, et bénis-nous à cause de Jésus, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Alors, c'est un psaume messianique qui nous parle du Messie, et c'est David qui a écrit ce psaume. Ailleurs, dans la parole de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, c'est insufflée de Dieu. Toute écriture, l'écriture, elle vient de Dieu. » Et l'apôtre Pierre, lui, a dit « Ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on peut dire « C'est la parole de Dieu. » Parce que Dieu a choisi cet homme, David, ce roi, et alors qu'il n'était même pas encore roi. Et Dieu a posé son esprit sur lui, et voilà, il a parlé, et puis il a écrit, et il était inspiré par Dieu, en sorte que nous avons la parole de Dieu entre les mains. Et Dieu nous parle par ce psaume. Versets 1 et 2, il dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» C'est un tumulte, c'est une agitation, un complot, un complot. On en veut au Tout-Puissant et à son oint, Jésus-Christ. Alors, quel est le premier accomplissement de cette prophétie? En fait, on trouve la réponse dans le livre des Actes, juste après. C'est Actes 4 et versets 25 à 28. Actes 4. Versets 25 à 28. Ici, c'est l'apôtre Pierre et Jean et plusieurs chrétiens qui vont faire une prière. Ils vont élever une prière à Dieu et regardez ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, verset 25, « C'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples ?» Donc, il est en train de citer le psaume 2. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël, puisqu'il y avait ces juifs qui venaient de partout, hein, avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et là, on voit l'accomplissement d'une prophétie qui a été faite 1000 ans auparavant, donc qui a été donnée 1000 ans auparavant, par la bouche de David ou par le psaume de David, les rois, les princes de la terre, Hérode, Ponce Pilate, les juifs, les nations, voilà, ils se sont ligués contre l'Éternel et contre son oint, Jésus-Christ. C'était un soulèvement, une unité contre Dieu. Mais que dit le Seigneur? Il dit, c'est des vaines pensées. C'est des vaines pensées. C'est futile. C'est fou. C'est inutile. C'est vide. Ce sont des pensées vides. L'homme croit pouvoir se jouer de son futur. Il pense qu'il peut décider, qu'il va réussir à changer les choses. Il se croit tout puissant pour s'affranchir de Dieu, se libérer de Dieu. Et c'est une pure folie. Alors je disais, premier accomplissement de cette prophétie, parce que dans les Écritures, il y a souvent un double accomplissement. Quand Dieu donne une parole, eh bien il y a un premier accomplissement, et puis finalement l'histoire se répète, hein, et il y a un deuxième accomplissement. Et ce psaume a trouvé un premier accomplissement au 1er siècle, Hérode, Ponce Pilate, etc. Mais il y aura aussi un deuxième accomplissement qui aura lieu, lui, à la fin des temps, où de nouveau, eh bien, on va se liguer contre l'Éternel et contre son oint. Alors que disent les peuples de la terre, juifs et païens? Verset 3. Ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est les hommes qui parlent ici, ils parlent. Ils l'ont dit il y a 2000 ans et ils vont le dire encore à la fin des temps, durant la tribulation. Voilà ce que disent les peuples de la terre. Brisons leurs liens, délivrons-nous des chaînes de Dieu en fait. Hein. C'est ça. L'humanité imagine qu'elle est enlacée par Dieu, qu'elle est prisonnière de Dieu, que voilà, c'est des chaînes, Dieu est dur. Il imagine dur. C'est un tyran. C'est un dictateur. Il impose ses lois. Il dicte la conduite à avoir. Il impose sa volonté. Il ne veut pas qu'on fasse ceci, il ne veut pas qu'on fasse cela. Mais comment ça? Comment ça? Pour qui se prend-il? Pourquoi il ne nous laisse pas faire ce qu'on veut? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Pourquoi l'homme voit-il Dieu de cette manière? Pourquoi il le voit comme dur? Ça peut venir de deux choses. La première, c'est l'ignorance ou la méconnaissance de Dieu. Il ne le connaît pas en fait. Il ne le connaît pas. Et souvent on a cette image de Dieu, mais on ne le connaît pas. C'est un parfait inconnu. On a entendu parler de lui. On nous a dit qu'il était comme cela. Nous a fait croire qu'il était comme cela. Parfois, c'est enfant. Vous savez, enfant, on peut avoir des pensées qui nous sont données. Puis après, il y a une image de Dieu qui se forme dans l'esprit. On se fait une opinion ou des lectures, voilà. Et puis après, on a un regard biaisé sur la personne de Dieu. Et la vérité, c'est qu'on est ignorant. On ne le connaît pas. Dieu peut faire grâce à l'ignorant. Merci Seigneur. Nous étions aussi ignorants, hein? Il y a dans la Bible cet homme, Saul de Tarse, il dit, mais j'étais ignorant. Hein? Il dit un peu plus tard, une fois qu'il est converti, il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et donc l'ignorance, c'est pas insurmontable, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce, il se révèle à l'ignorant, il s'est révélé à nous, hein. Nous étions complètement ignorants, nous haïssant les uns les autres, dignes de la condamnation. Dieu n'est pas quelqu'un qui nous lie, qui nous enchaîne. La deuxième chose qui peut faire voir Dieu comme cela, c'est un aveuglement à cause du péché. Le fait d'être aveuglé à cause du péché. Et c'est un autre problème. Vous savez, quand il y a de la haine, de la rébellion, ça peut nous rendre complètement aveugles. Le péché obscurcit la vue. Quand on pêche, on ne voit plus clair. On ne discerne plus. on ne pense plus juste, on pense de travers. Et on finit par juger, par dire des choses, et on se trompe complètement. On est dans les ténèbres. Il y a un exemple dans la Bible, c'est celui de Samson. Samson, mis à part pour Dieu, choisi pour Dieu, naziréen qui fait un vœu. Mais le péché a commencé à obscurcir sa vue. Et puis, il s'est mis à aller là où il ne devait pas aller, hein, dans la vallée de Sorek, la vallée du vignoble, lui qui ne devait pas boire de vin. Et puis, il a commencé à faire des choses qu'il ne fallait pas. Et finalement, il a terminé avec les yeux crevés. Mais finalement, son aveuglement physique était le résultat de son aveuglement spirituel. Aveuglé. Et beaucoup pensent que Dieu enchaîne les hommes. Ils le voient comme quelqu'un de dur. Mais ils sont aveugles. Aveugles à cause du péché. Alors ils disent, brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. S'ils avaient été au temps du Seigneur Jésus, ils auraient dit, crucifie-le, crucifie-le. Est-ce que Dieu est dur? Regardez Matthieu, chapitre 11, et versets 28 à 30. Matthieu 11, versets 28 à 30. Vous connaissez ce passage pour beaucoup, où il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Et là, le Seigneur se présente à nous comme quelqu'un de doux et d'humble. Et Dieu est d'abord comme cela. Il est d'abord comme cela. C'est important de comprendre qu'en Dieu, il y a cette douceur et cette humilité. En réalité, l'homme est bien plus dur que Dieu lui-même. D'ailleurs, on le voit souvent nous-mêmes, hein, dans nos réactions, dans nos pensées, on n'agirait pas comme Dieu. Et souvent, c'est le cœur, hein, notre cœur qui est dur. Lorsque l'homme rejette Dieu, mais il montre la dureté qui est dans son propre cœur. Il montre combien il est orgueilleux et arrogant. Christ n'a pas réagi aux insultes qui pleuvaient sur lui. Il n'a pas réagi aux gifles et aux coups de poing qu'on lui donnait. Il n'a rien dit quand on s'est moqué de lui. Il est resté doux, humble. Et vous savez, son caractère, il se manifeste aussi sur ses exigences. Dieu n'est pas dur, mais ça ne veut pas dire qu'il est mou. Il n'est pas dur, mais il n'est pas mou. Et on ne parle pas de liens et de chaînes, on parle d'un joug. Certes, il y a un joug. Dieu a des exigences, hein, pas de chaînes, un joug. Dieu a des exigences. Bien sûr, la loi de Dieu, elle existe. Bien sûr, Dieu ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi. Et il nous dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc oui, il a des choses à nous dire. Un joug et des instructions. Littéralement, c'est « Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. » C'est beau ça, hein ?« Apprenez de moi », il nous dit. En fait, il nous dit « Mais regardez vers moi et tirez instruction de moi, de ce que je suis, de ma personne. Tirez de moi votre apprentissage. » Dans la vie. Apprendre de lui, c'est une belle expression ça. Hein? Je veux apprendre de Jésus. Quelle belle expression. Et Jésus a beaucoup de choses à nous enseigner si on le veut. Le joug, il nous parle d'un service, il nous parle d'un travail, d'une œuvre, de quelque chose que l'on fait avec lui. C'est ça le joug. On apprend de lui et on le sert. Rien à voir avec des liens, avec des chaînes, c'est pas ça. Les liens et les chaînes, c'est pour le cachot, c'est pour la prison, c'est pour le jugement. Pas celui à qui le maître dit « Apprends de moi et sers-moi ». Et quand on a un maître qui est doux et humble, c'est aussi évident qu'il y a une certaine marge de liberté. Mais il faut le connaître pour le comprendre. Vous savez, de l'extérieur, l'aveugle et l'ignorant disent « Dieu est dur !» et il enchaîne. Et de l'intérieur, l'enfant de Dieu dit « Dieu est bon, Dieu est doux, Dieu est humble. » Certes, il est exigeant, c'est vrai, mais il est tellement bienveillant, tellement miséricordieux. Dieu est bon. Non, le joug n'est pas dur. Non, le fardeau n'est pas lourd pour celui qui a un cœur aussi qui est bon, qui est intelligent et qui aime Dieu. Alors, versets 4 et 5. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et il les épouvante dans sa fureur. Et Dieu rit. Il rit devant l'absurde, en fait. Devant la folie humaine. L'homme pense pouvoir se passer de Dieu avec outrecuidance. Et c'est ridicule, complètement ridicule. C'est du point de vue de Dieu, c'est absurde, absurde. Mais eux, les rebelles, eux, ils sont très sérieux. Ils pensent vraiment qu'ils vont s'affranchir de Dieu et de son oint. Et c'est dans la profondeur de leur péché, de leur injustice, de leur méchanceté qu'ils pensent cela. Alors Dieu, eh bien, répond. Et là, il y a un jugement qui tombe. Il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Et il y a 2000 ans, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Les hommes ont cru pouvoir se libérer de Dieu en crucifiant son Fils sur la croix. Ça semble incroyable. La volonté de se délivrer des liens, des chaînes, c'était de crucifier Jésus-Christ sur la croix. Et vous savez, quelques décennies plus tard, Dieu a permis que Titus vienne et que Titus détruise Jérusalem, abatte le temple. C'était la colère qui s'est abattue sur eux. Et là, eh bien, ils ont été dispersés dans toutes les nations. À la fin des temps, les hommes vont de nouveau croire pouvoir s'affranchir de Dieu. Comment ? En éradiquant ceux qui croient en l'Éternel, le vrai Dieu. Ceux qui voudront encore se tourner vers Dieu, on va chercher à les éliminer. Quand Dieu va envoyer deux témoins, on va vouloir tuer les deux témoins. Et on va se réjouir quand ils seront morts. On rejette Dieu. Le monde ne voudra pas du témoignage que Dieu leur donnera à la fin des temps. Ils ne voudront plus. Et de nouveau, Dieu leur parlera dans sa colère. Il les épouvantera dans sa fureur. Il jugera. Regardez ce qu'il dit. Verset 6. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. » Ce n'est pas encore réalisé, c'est quelque chose qui va s'accomplir. Jésus sera le roi sur Sion, sur Jérusalem, sa montagne sainte. Qu'est-ce qui va pouvoir l'empêcher ? Rien. Personne ne pourra l'empêcher. Dieu va accomplir son dessein. Le Fils va régner à Jérusalem. Et il poursuit, il dit, versets 7 à 9, « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » On a un décret ici, irrévocable. Christ recevra les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Alors ça nous parle bien sûr du millénium. Et dans le millénium, Christ va sortir une verge de fer. Pourquoi ? Parce que durant le millénium, c'est-à-dire durant ces 1000 ans, ce millénaire à venir en fait, on est à la porte qui est devant nous, le Fils va exercer la justice, et une justice implacable. Quand le péché se manifestera, Dieu jugera le péché. Aujourd'hui, les hommes pêchent et il ne se passe rien. Ils vivent tranquilles. Mais là, Dieu jugera. Aussitôt, il jugera. Il est dit même que dans ce temps, celui qui commet le péché sera maudit. Il n'y aura pas une bénédiction. Vous savez, certains sont dans le péché et... comme dit le psaume 73, tout leur sourit, ils ont de l'embonpoint. Là, ça ne sera plus le cas. Durant le millénium, celui qui pêche, il sera maudit. Mais dans notre texte, il y a une expression qui mérite qu'on s'y penche, c'est le verset 7, où il est dit « L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça signifie ?« Je t'ai engendré aujourd'hui. » Ce mot « engendré », ça fait réfléchir. Dieu a dit que Jésus est son fils et qu'il l'a engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, de quel jour s'agit-il ? Et qu'est-ce que ça veut dire, engendré ? Est-ce que ça nous parle d'une naissance à un instant T ? Jésus est le fils unique engendré par Dieu. Et vous savez, quand vous prenez Jean 3,16, eh bien dans Jean 3,16, c'est ce terme-là. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique », c'est ce terme-là, « afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Littéralement, c'est « il a donné son Fils unique engendré ». Monogenes. Et ce mot est traduit de différentes manières, dans différentes traductions, on va trouver « unique », « seul et unique », « unique engendré ». Et quand vous cherchez un petit peu les définitions dans le grec, dans plusieurs dictionnaires, d'abord le terme se rapporte à quelqu'un étant le seul de son genre dans une relation spécifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un exemple, c'est dans Hébreux 11:7, où il nous est parlé d'Isaac. Et il est dit qu'Isaac était l'unique fils engendré d'Abraham, la même expression. Pourquoi ? Parce que Isaac était, c'est pas que Abraham n'avait pas d'autres fils, il avait des autres fils, mais c'était le seul dans une relation unique, le seul fils de l'Alliance, le seul qui venait de Sarah. Et donc il y avait cette relation unique. Et puis, un autre sens, ce terme se rapporte à quelqu'un étant le seul de son type ou de sa classe, unique en son genre. Et c'est c'est Jean, dans ses écrits, l'apôtre Jean, qui emploie ce terme monogenes pour Jésus-Christ à plusieurs endroits. Et Jean, il nous décrit Jésus comme étant le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il est de la nature divine, il nous parle de sa divinité. Et donc c'est dans ce sens-là où il est l'unique, il est totalement à part, il est Dieu lui-même. Partageant la même nature divine par opposition aux croyants qui eux sont des fils et des filles de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, mais par la foi. Jésus est le Fils unique de Dieu, il n'y a personne qui est semblable à lui. Il vient du sein du Père et il faut s'arrêter là. Il faut s'arrêter là parce que certains veulent aller plus loin. Et notamment les témoins de Jéhovah qui veulent faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Alors ils vont dire, mais en fait, voilà, il a été engendré, donc il a été créé comme un enfant, voilà, est créé, hein, engendré par ses parents. Non, c'est pas ce que dit le texte. Et il faut regarder ce terme, regarder dans toute la Bible et essayer de comprendre, mais qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire ? Et il y a un texte qui est clair, qui apporte quelque chose. C'est Acte 13. Chapitre 13, versets 30 à 35. Acte 13, versets 30 à 35. Et donc, c'est au sujet de Jésus, Paul, qui dit... Il dit, chapitre 13, verset 30, « Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, « Tu es mon fils ». Je t'ai engendré aujourd'hui, qu'il ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Et c'est très intéressant ce passage. À cause de ce passage et de quelques autres, eh bien, on voit qu'il s'agit pas nécessairement d'un engendrement dans le sens de la naissance seule. C'est pas ça. Ici, en acte 13, Paul associe cela à la résurrection. À la résurrection. Cette promesse, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Donc, il établit le lien entre le fait de la résurrection et le fait que Dieu l'ait engendré. En hébreu, il y a un autre passage où il est dit « Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Comme il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Quand Christ est-il devenu souverain sacrificateur, une fois qu'il est mort, ressuscité, et qu'il a présenté son sang dans les cieux, hein, devant son Père? Et là, eh bien, on voit que cet engendrement est sans aucun doute plus le passage de Jésus sur terre. C'est là où le Père a engendré le Fils, notamment parce que le Fils a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, parce qu'il a triomphé du mal, parce qu'il a dépouillé les autorités célestes, dans les lieux célestes, par sa mort sur la croix, parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il a été élevé, qu'il a présenté son sang au Père, et finalement, parce que le royaume lui a été remis. Et là, on est dans le psaume 2e. C'est l'aboutissement de cet engendrement du Père. Hein. C'est ce que nous lisons dans le psaume 2. « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. » Et Jésus va recevoir le gouvernement sur toutes les nations, hein, lorsqu'il sera physiquement à Jérusalem, et c'est l'aboutissement en fait. Hein. Et c'est dans ce sens qu'il a engendré le Fils, et uniquement dans ce sens. Si on le résume, on peut dire, le Père a engendré le Fils par son passage sur terre, sa naissance, sa mort, sa résurrection, et son intronisation comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Voilà, ça c'est le Père qui engendre le Fils. On continue. Versets 10 à 12. « Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. » Heureux tous ceux qui se confient en lui. Et maintenant, roi, président, premier ministre, dirigeant, gouvernant du monde entier, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Et dans le temps futur du millénium, eh bien, tous les grands de ce monde vont se courber devant Jésus-Christ. Et là, ils vont recevoir instruction du Fils de Dieu. Oui, Jésus est doux et humble de cœur. Mais pour ceux qui ne veulent pas recevoir ces instructions maintenant, alors qu'ils se présentent à nous comme doux et humbles, eh bien, ils recevront ces instructions plus tard, lorsqu'il aura une verge de fer dans les mains. Et là, il donnera ses instructions et le connaîtront comme le roi des rois. Et le psaume se termine sur trois instructions qui forment un tout, hein. Des instructions pour le millénium, on peut dire, mais qui s'appliquent aussi, qui peuvent déjà s'appliquer à nous. C'est d'abord « Servez l'Éternel avec crainte ». Servez l'Éternel avec crainte. On l'a dit, le joug, ça suggère un service. Et Dieu nous appelle à le servir, mais avec respect, avec crainte. Quelqu'un dit « La crainte de Dieu, c'est un vif sentiment de sa présence. » Un vif sentiment de sa présence. Quand on sait qu'il est là, alors là, les choses ne se passent pas de la même manière, hein, quand on a le sentiment de sa présence. Imaginez que Jésus est tout le temps avec vous, là, à côté, juste à côté, pendant toute votre journée. Est-ce que la vie serait différente, hein? Est-ce qu'on vivrait d'une manière différente? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne ferait pas? Et Jésus est avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, on a son esprit qui est là, il est avec nous. Ça, c'est la réalité. Et il faut qu'on garde hein, ce vif sentiment de sa présence. Il est présent. Il dit « Réjouissez-vous avec tremblement » ensuite. Qu'est-ce que ça peut suggérer ? Se réjouir. Le monde se réjouit. Le monde fait la fête. Le monde s'amuse. Il rigole. Mais souvent, sa joie, elle n'est pas saine. Elle va prendre racine hein, dans de la moquerie, dans voilà, de la méchanceté, dans du mépris, dans le malheur des autres. Les gens se réjouissent du malheur des autres. Hein, sur Internet, il y a plein de vidéos des gens qui se font mal. Et les gens, oh, ça les fait rire. Ça les fait rire. On se réjouit des autres comme ça. C'est pas de ça dont Dieu veut qu'on se réjouisse. Dieu a créé la joie. Il est heureux qu'on soit dans la joie. Il veut qu'on soit dans la joie, mais une joie qui est saine. Il veut qu'on se réjouisse sainement, avec tremblement, c'est-à-dire en demeurant en lui, toujours en demeurant en lui. Et il y a certaines choses qui ne devraient pas nous réjouir, qui ne sont pas amusantes. Hein. Et il dit « Baisez le Fils ». Et là, c'est une nouvelle vision de Jésus-Christ. Il est venu une première fois comme un agneau, il s'est laissé tondre, comme une brebis muette devant ceux qui l'attrapent, un serviteur, quelqu'un de doux et humble. Et là, il va revenir, il va s'asseoir sur un trône, baiser le Fils, c'est-à-dire prosternez-vous devant le Fils, à genoux devant le Roi des Rois, adorez-le. Servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement, baisez le Fils de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Et on ne peut pas faire abstraction des mots dans la Bible. Ici, il emploie un mot très fort, périr. Le mot périr pour celui qui ne connaît pas le Fils de Dieu pour ce qu'il est. Baisez le Fils. Vouez-lui un culte, une adoration, reconnaissez-le comme étant le roi des rois. Beaucoup se disent que croire en Dieu, ça suffit, mais ça ne suffit pas. Le salut passe par Jésus-Christ seul, unique. Et il le dit, hein, Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'une seule vérité, qu'une seule vie, c'est Jésus-Christ. Et nul, personne ne peut venir à lui en dehors de Jésus-Christ. On ne peut pas venir au Père en dehors de Jésus-Christ. C'est exclusif. Hier soir, on était avec les enfants à table, et puis je repensais à cette histoire de la conversion de Spurgeon. Spurgeon, donc, un célèbre prédicateur anglais. Et je me suis dit, je vais leur lire cette histoire, comment Spurgeon s'est converti. Alors, peut-être certains l'ont entendu, d'autres non, je vais vous la rappeler. Donc, c'était en pleine tempête de neige, il était tout jeune, j'ai pas relu, mais il devait avoir une quinzaine d'années. Pleine tempête de neige, et puis il va dans une assemblée méthodiste. Hein, et là, en fait, le prédicateur était bloqué à cause de la neige. Et c'est un homme qui s'est levé dans l'assemblée, tout maigre, et qui est venu au pupitre. Je vous avais déjà raconté ça, hein. Et il a lu ce verset en anglais, et en anglais, donc, pour que ça soit pareil que nous, il faut prendre la version Osterwald. Et c'est un verset en Ésaïe, où il est dit « Regardez à moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Regardez à moi. » Et alors, il a dit « Mes chers amis, c'est vraiment un texte tout simple. » Il dit « Regardez, c'est pas compliqué de regarder, ça ne demande pas de grand effort. Ce n'est pas la peine d'avoir fait des études pour apprendre à regarder, n'importe qui le peut, même un enfant. » Jésus-Christ dit « Regardez à moi. » Beaucoup d'entre vous regardent à eux-mêmes, c'est inutile. Vous ne trouverez jamais le repos en vous-même. Puis le prédicateur continua « Regardez à moi, Jésus-Christ, je transpire des grumeaux de sang. Regardez à moi, je suis pendu au bois de la croix. » Regardez à moi, je suis mort, enseveli. Regardez à moi, je suis ressuscité. Regardez à moi, je monte au ciel. Regardez à moi, je suis assis à la droite du Père. Ô pauvre pécheur, regarde à moi. Pourquoi ? Parce qu'un regard sur Jésus seul. Nul ne vient au Père que par lui. C'est Jésus seul le Sauveur. Il faut regarder à lui et par la foi, lui donner sa vie, son cœur, croire en lui. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois, simplement crois et tu seras sauvé. Spurgeon a regardé, il a oublié tout le reste et il a été sauvé ce jour-là. Un regard de la foi. Notre psaume 2 termine par ces mots. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Heureux. Heureux. C'est quoi? C'est le bonheur en fait. Hein? On cherche le bonheur. Les gens courent après le bonheur. Ils voudraient le bonheur, mais le bonheur il est là. Heureux celui qui se confie en Dieu, en Jésus-Christ. C'est là le bonheur. Trouvez notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez à lui. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez regardé à lui ?